Je l'ai trouvé avec deux autres de mes camarades d'école. Ils devaient discuter une affaire importante. Il s'en fallut de peu qu'aucun des trois n'accordât la moindre attention à ma visite, ce qui paraissait même bizarre, car nous ne nous étions plus revus depuis des années. Ils devaient me considérer comme la plus ordinaire des mouches. Même à l'école, ils ne me traitaient pas de cette façon, et pourtant, ils me haïssaient tous. Bien sûr, je comprenais qu'ils devaient me mépriser maintenant pour ma carrière ratée, parce que je m'étais par trop laissé aller, j'étais mal habillé, etc. Ce qui était à leurs yeux le signe patent de mon inaptitude et de mon insignifiance. Mais bon, je ne m'attendais pas à ce degré de mépris. Simonov s'étonnait même de ma venue. Avant aussi, il semblait s'étonner de mes visites. Tout cela m'avait beaucoup surpris. Je m'étais installé avec un certain malaise, j'écoutais ce qu'ils disaient. Ils avaient une discussion sérieuse et même passionnée sur un dîner d'adieu que ces messieurs voulaient donner dès le lendemain à leur camarade Sverkov, que sa carrière d'officier entraînait loin en province. Ce monsieur Sverkov, lui aussi, il avait été mon camarade d'école. Je m'étais mis à le détester, surtout dans les dernières classes. Dans les premières classes, il était un petit garçon mignon et vif que tout le monde adorait. Il faut dire que je le détestais déjà dans les petites classes, et justement parce qu'il était un petit garçon bien vif et bien mignon. Ses études avaient toujours été médiocres, et plus nous grandissions, plus ça empirait. Mais il sortit quand même de l'école dans un bon rang, parce qu'il avait une protection. Au cours de sa dernière année d'école, il avait reçu un héritage, 200 âmes. Et comme nous étions pauvres, presque tous, il s'était mis à fanfaronner, même devant nous. C'était un homme vulgaire au dernier point, une bonne patte malgré tout, même quand il fanfaronnait. Chez nous, malgré les formes extérieures, fantastiques et oratoires que prenaient l'honneur et l'amour-propre, tout le monde, à de rares exceptions près, allait jusqu'à lui faire la cour, à ce Sverkov. Plus il fanfaronnait. Ce n'est pas par intérêt qu'on lui faisait la cour, mais comme ça, parce qu'il était un homme favorisé par les dons de la nature. D'autant qu'on admettait chez nous, à l'unanimité ou presque, de voir en Sverkov un spécialiste dans le domaine de l'adresse et des bonnes manières. Ce dernier point me faisait spécialement enrager. Je haïssais le son de sa voix, abrupte, inaccessible au doute, son adoration pour ses propres bons mots, qui étaient tous horriblement stupides, même s'il avait la langue bien pendue. Je haïssais sa tête, belle et pas très futée, mais que j'aurais changée de bon cœur contre la mienne, l'intelligente, et toutes ses familiarités d'officier des années 40. Je haïssais ce qu'il racontait de ses futurs succès auprès des femmes. Il n'osait pas commencer avec les femmes avant d'avoir ses galons d'officier, ce qu'il attendait avec impatience. Et comment, à chaque instant, il allait se battre en duel. Je me souviens comment, moi, qui restais toujours silencieux, je me suis soudain accroché avec lui quand il parlait avec ses camarades, entre les heures de classe, de ses conquêtes futures et que, s'échauffant à force comme un chiot au soleil, il avait fini par sortir, qu'il ne laisserait pas une paysanne de son village sans un hommage, que c'était là son droit du seigneur, et que les ploucs qui oseraient protester, il les fouetterait lui-même du premier au dernier et qu'il leur doublerait leurs taxes à ces gros cons barbus. Nos petites guapes l'applaudissaient, et moi, je lui suis rentré dedans, pas du tout par pitié pour les filles et leurs pères, mais simplement comme ça, parce qu'ils applaudissaient ce minus. Je l'avais eu, mais Sverkov, tout idiot qu'il était, restait toujours mordant et gai. Il avait su s'en sortir par la plaisanterie, de sorte que je ne l'avais pas eu entièrement. Le rire était resté de son côté. Plus tard, il m'avait dominé plusieurs fois de suite, mais sans méchanceté, comme ça, en plaisantant, sans y penser, le sourire aux lèvres. Moi, rageusement, avec mépris, je ne lui répondais pas. À la sortie, il avait fait un pas vers moi. Je n'avais pas trop protesté, je me sentais flatté. Mais nous nous sommes séparés naturellement très vite. Après, j'ai entendu parler de ses succès de jeune lieutenant de corps de garde. On disait qu'il menait la belle vie. Puis, d'autres bruits me sont parvenus sur son avancement dans la carrière. Dans la rue, il avait cessé de me saluer. Je soupçonnais qu'il avait peur de se compromettre en échangeant un salut avec quelqu'un d'aussi minable que moi. Une fois encore, je l'ai vu au théâtre, aux troisièmes loges, portant déjà les aiguillettes. Il se tortillait et il faisait le beau devant les filles d'un très vieux général. En 3 ans, il avait eu le temps d'enlaidir, même s'il restait toujours aussi habile, aussi beau. Il s'était, comment dire, affaissé, il avait engraissé. On voyait qu'à 30 ans, il ne serait plus qu'un sac de graisse. Donc, c'est à ce Zverkov qui s'en allait enfin que nos camarades s'apprêtaient à offrir un dîner. Tous ces 3 ans, il l'avait toujours fréquenté, malgré le fait qu'eux-mêmes, intérieurement, ils se sentaient inférieurs, j'en suis persuadé. Le premier invité de Simonov était Ferfitchkin, un russe allemand, un abo, à la face simiesque, un crétin qui se moquait de tout le monde, mon pire ennemi depuis les petites classes, un petit fanfaron vil, hardi, et qui se donnait des airs d'ambition chatouilleuse, alors qu'évidemment, dans le secret de son cœur, il était un lâche. Il comptait parmi ses fervents de Zverkov, qui faisaient le beau devant lui par intérêt et lui empruntaient souvent de l'argent. L'autre invité de Simonov, Trudolyubov, était une personnalité fort terne, un militaire, mais qui s'inclinait devant toutes les réussites et ne semblait capable de parler que d'avancement. Zverkov et lui étaient lointainement parents, et, c'est idiot à dire, cela lui conférait parmi nous un prestige certain. Moi, il m'avait toujours considéré comme rien. Il s'adressait à moi, pourtant, pas d'une façon tout à fait impolie, supportable. « Donc, si ça fait 7 roubles chacun, dit Trudolyubov, on est 3, ça nous fait 21. On peut se faire un bon petit gueuleton. Zverkov ne paie pas, bien sûr. »« Évidemment, si on l'invite, répliqua Simonov. « Vous croyez vraiment, s'exclama Ferfitchkin, avec une fougue blessée comme un valet insolent se vantant des étoiles de son général de maître, vous croyez vraiment que Zverkov nous laissera payer tout seul ?» Il se laissera faire par délicatesse, mais il nous en allongera une demi-douzaine. À 4, une demi-douzaine, ça fait beaucoup, remarqua Trudolyubov, qui n'avait compris que la demi-douzaine. Bon, donc, 3, 4 avec Zverkov, 21 roubles à l'hôtel de Paris demain à 5 heures, finit par trancher Simonov, qui avait été élu ordonnateur. Comment 21 ? Dis-je dans une certaine agitation, et même sans doute offusqué. Si vous me comptez aussi, ça ne fera plus 21, mais 28 roubles. Il m'avait semblé que de me proposer comme ça ferait même très bel effet, qu'ils seraient tous vaincus d'un seul coup et que j'aurais droit à leur estime. Vous aussi, vous voulez ? Remarqua Simonov d'un ton très mécontent, en évitant de croiser mon regard. Il me connaissait par cœur. Cela me rendit furieux qu'il me connût par cœur. « Et pourquoi non ? Moi aussi, je suis son camarade, et je vous avoue que je suis même vexé que vous n'ayez pas pensé à moi, fis-je, me remettant à bouillir. »« Et où vouliez-vous qu'on vous cherche ? » intervint grossièrement Ferfitchkin. « Vous ne vous êtes jamais entendu avec Zverkov, » ajouta Trudolyubov en fronçant les sourcils. « Mais moi, j'étais lancé, je ne pouvais plus lâcher prise. »« Il me semble que personne n'est en droit d'en juger, » répliquai-je d'une voix tremblante, comme si c'était les murs qui venaient de s'écrouler. « C'est justement pour cela, peut-être, que je le veux maintenant, parce qu'on ne s'est jamais entendu. »« Enfin, essayez de vous comprendre, tous ces grands sentiments, » ricana Trudolyubov. « Je vous inscris, » trancha Simonov, en s'adressant à moi, « demain 5 heures à l'hôtel de Paris. Ne vous trompez pas. » « Et l'argent ?» voulut murmurer Ferfitchkin, me montrant de la tête à Simonov. Mais il n'acheva pas sa phrase, même Simonov était gêné. « Assez !» dit Trudolyubov en se levant. « Si c'est vraiment ce qu'il veut, qu'il vienne. » « Mais nous avons notre cercle à nous, un cercle d'amis, » rageait Ferfitchkin en reprenant son chapeau. « Ce n'est pas un banquet officiel. Peut-être qu'on ne voulait pas du tout vous inviter. » Ils étaient partis. Ferfitchkin, au moment de partir, ne m'avait même pas salué. Trudolyubov avait juste esquissé un signe de tête sans me regarder. Simonov, avec lequel j'étais resté en tête à tête, semblait aussi contrarié que stupéfait quand il me regarda d'un air bizarre. Il ne s'asseyait pas et ne me demandait pas de le faire. Oui. Demain, donc. L'argent, vous le donnez maintenant? C'est pour être plus sûr que je... murmura-t-il d'un air gêné. Je sursautai, mais tout en sursautant, je me rappelai soudain que depuis des temps immémoriaux, je devais 15 roubles à Simonov, ce que d'ailleurs je n'oubliais jamais, même si je ne les rendais jamais. Concédez-moi, Simonov, que je ne pouvais pas savoir quand je suis entré, et je suis très fâché d'avoir oublié. Fort bien, c'est bon. Vous paierez demain au restaurant. C'est seulement pour savoir que je... S'il vous plaît, vous... Il laissa cette phrase en suspens et se mit à arpenter sa chambre avec une contrariété encore plus grande. En marchant, il avait commencé à peser sur ses talons et à les claquer plus fort sur le parquet. Je ne vous retarde pas, lui demandai-je après un silence de 2 minutes. Oh non, se réveilla-t-il soudain. C'est-à-dire qu'en fait, si. Voyez-vous, il fallait que je passe encore là, pas loin, ajouta-t-il avec une voix qui semblait demander pardon, un peu piteuse. Mon Dieu, mais pourquoi vous ne me disiez rien? M'écriai-je, saisissant ma casquette avec un air d'ailleurs tellement dégagé que je me demande bien d'où il pouvait me venir. C'est tout près. À 2 pas, répétait Simonov en me raccompagnant dans l'entrée, avec un air très agité qui ne lui allait pas du tout. Demain, donc, à 5 heures précises, me cria-t-il dans l'escalier. Il était vraiment heureux que je parte. Moi, j'étais fou furieux. Mais quelle mouche m'a piqué, non, mais quelle mouche! Murmurai-je grinçant des dents et descendant la rue à grande enjambée. Et pour cette canaille, ce gros porc de Zverkov! Bien sûr qu'il ne faut pas que j'y aille. Bien sûr que ça ne fait rien. J'ai donné ma parole ou quoi? Dès demain matin, je préviens Simonov par la poste urbaine. Mais c'est pour cela que j'étais enragé, parce que je savais bien que j'irais à coup sûr, que je ferais exprès d'y aller. Plus ça manquait de tact, plus c'était indécent de ma part, plus vite j'y serais allé. Il y avait même un obstacle positif à ce que j'y aille. Je n'avais pas l'argent. Il me restait 9 roubles, pas un de plus. Sur ces 9 roubles, il fallait que j'en donne 7 le lendemain à Apollon, mon domestique, son salaire mensuel, parce qu'il vivait chez moi pour 7 roubles, mais nourri à ses frais. Il était impossible de ne pas les lui donner, vu le caractère d'Apollon. Mais je parlerai plus tard, peut-être, de cette canaille, de cette plaie de mon existence. D'ailleurs, je savais parfaitement que je ne les lui donnerais pas et que j'irais à coup sûr. Cette nuit-là, je fis les cauchemars les plus horribles. Pas étonnant. Toute la soirée, j'avais été oppressé par les souvenirs de mes années de bagne à l'école. Je ne pouvais m'en détacher. J'avais été fourré dans cette école par de lointains parents dont je dépendais et dont je n'ai eu par la suite aucune nouvelle. Ils m'avaient fourré là, orphelin, déjà complètement écrasé par leurs reproches, déjà méditatif, ne disant rien et lançant un regard farouche sur tout. Mes camarades m'avaient accueilli par des moqueries méchantes et sans pitié parce que je ne ressemblais à aucun d'eux. Mais je ne pouvais pas les supporter, les moqueries. Je ne pouvais pas m'y faire d'une façon si lâche comme eux, ils se faisaient les uns aux autres. Je les avais haïs immédiatement, et je m'étais muré de tous dans un orgueil craintif, blessé et incommensurable. Leur grossièreté m'indignait. Ils riaient cyniquement de ma tête, de mon apparence maladroite, mais leur tête à eux, comme elles étaient stupides. Notre école abrutissait et transformait d'une façon spéciale l'expression des visages. Que d'enfants magnifiques entraient chez nous. Quelques années plus tard, il devenait dégoûtant de les regarder. J'avais 16 ans. Je les contemplais avec une stupéfaction lugubre. Dès cet âge-là, la mesquinerie de leurs pensées, la bêtise de leurs occupations, de leurs jeux, de leurs conversations, tout cela me laissait ébahi. Ils ne comprenaient pas des choses tellement essentielles. Ils ignoraient tant de sujets si importants, si passionnants, que je pris peu à peu l'habitude de les considérer comme inférieurs à moi. Ce n'est pas une vanité blessée qui me poussait à cela. Et pour l'amour du ciel, épargnez-moi ces réflexions qui me font vomir tellement elles sont communes. Moi, je ne faisais que rêver, et c'était eux, en fait, qui connaissaient la vraie vie. Ils ne comprenaient rien du tout, pas la moindre vraie vie, et je vous jure que c'était cela qui m'indignait le plus. Au contraire, Il prenait d'une façon fantastiquement stupide la plus évidente, la plus aveuglante des réalités, et dès cet âge, il ne s'inclinait que devant le succès. Tout ce qui était juste mais humilié, mais écrasé, il s'en moquait d'une façon aussi scandaleuse qu'impitoyable. Il prenait le rang pour l'esprit. Dès l'âge de 16 ans, il rêvait d'une bonne place. Bien sûr, c'était surtout de la bêtise ou les mauvais exemples qui avaient toujours entouré leur enfance et leur adolescence. Ils s'étaient dépravés jusqu'à la laideur. Évidemment, c'était le plus souvent un cynisme extérieur, de façade. Il va de soi que la jeunesse et une certaine fraîcheur pointaient quelquefois même dans leur dépravation. Mais même cette fraîcheur paraissait repoussante, et elle s'exprimait par une espèce de grossièreté. Je les haïssais terriblement, même si, sans doute, j'étais pire. Ils me rendaient la monnaie de ma pièce et ne cachaient pas le dégoût qu'ils éprouvaient pour moi. Mais moi, je ne leur demandais plus d'amour. Au contraire, j'espérais toujours qu'ils seraient humiliés. Pour me défaire de leurs moqueries, exprès, j'ai voulu être le meilleur élève possible, et je suis parvenu au tout premier rang. Ça les a épatés. De plus, ils commençaient peu à peu à comprendre que je lisais des livres qu'ils n'arrivaient pas à lire, et que je comprenais des choses qui n'entraient pas dans notre programme scolaire, dont eux, ils n'avaient même jamais entendu parler. Ils regardaient cela avec sarcasme et fureur, mais ils se soumettaient moralement, d'autant que même les enseignants me prêtaient attention à ce propos. Les moqueries s'arrêtèrent, resta l'inimitié, des relations tendues et froides s'établirent. À la fin, je n'y tenais plus moi-même. Avec l'âge, le besoin des gens, des amis allait croissant. Je voulus essayer de me rapprocher de certains, mais ces rapprochements semblaient toujours forcés et ils se terminaient tout seuls, sur rien. J'ai même eu un ami une fois, mais j'étais déjà un despote dans l'âme. Je voulais une domination illimitée sur son âme. Je voulais lui inculquer le mépris pour le milieu qui l'entourait. J'exigeais de lui un abandon hautain, définitif de ce milieu. Je l'ai terrorisé par ma passion. Je le poussais jusqu'aux larmes, aux convulsions. C'était une âme naïve et prête à se donner. Mais quand il s'est donné à moi complètement, je l'ai haï tout de suite et je l'ai repoussé, comme si je n'avais eu besoin de lui que pour le vaincre, seulement pour le soumettre. Mais je ne pouvais pas vaincre tout le monde. Mon ami, lui non plus, ne ressemblait à aucun d'eux. Il n'était que l'exception la plus rare. Mon premier souci, en sortant de l'école, fut de quitter ce département spécial auquel j'étais destiné pour couper tous les ponts, maudire le passé et le recouvrir de cendres. Quelle mouche m'avait donc piqué, après cela, de me ramener chez ce Simonov. Tôt le matin, j'ai sauté de mon lit. Je m'en suis éjecté, très inquiet, comme si cela devait commencer là, maintenant. Je croyais que c'était un changement radical dans ma vie qui débutait ce jour-là, ou qui allait débuter. Manque d'habitude peut-être, mais toute ma vie, je me suis imaginé que les événements les plus extérieurs, les plus futiles, allaient toujours marquer un changement radical dans ma vie. Je suis quand même allé au bureau, comme tous les jours, mais je me suis éclipsé avec 2 heures d'avance, pour me préparer. L'essentiel, pensais-je, c'était de ne pas arriver le premier, sans quoi il pourrait croire que je suis trop content. Mais des choses essentielles comme celle-là, il y en avait des milliers, et elles m'inquiétaient toutes jusqu'à l'épuisement. J'ai ciré mes bottes tout seul. Jamais de la vie Apollon ne les aurait cirées 2 fois dans la même journée. Il trouvait que ça faisait désordre. Je les ai cirées après avoir volé une brosse dans l'entrée, pour qu'il ne me remarque pas et qu'il ne me méprise pas ensuite. Puis j'ai fait subir une revue de détails à mes habits. J'ai vu que tout était vieux, usé, râpé. Je m'étais laissé aller trop, vraiment. Mon uniforme, à la rigueur, avait l'air convenable. Mais je n'allais pas dîner en uniforme. L'essentiel, sur le pantalon, en plein sur le genou, je découvris une énorme tache jaune. Je pressentais que cette tache, à elle seule, m'enlèverait les 9/10 de ma dignité. Je savais aussi que c'était très vil de penser cela. Mais ce n'est plus l'heure des pensées maintenant. c'est l'heure de la réalité, pensais-je, et je perdais courage. Je savais aussi parfaitement, dans l'instant, que tous ces faits, je les exagérais d'une façon monstrueuse. Mais que pouvais-je y faire? Je n'arrivais plus à me dominer, j'étais secoué par la fièvre. Je me représentais au désespoir comment cette canaille de Zverkov m'accueillerait de haut avec froideur, le mépris obtus, absolument inexorable, que je lirais dans les yeux de cet âne de Trudolyubov, les petits rires méchants et sarcastiques de ce moucheron de Ferfitchkine pour se faire bien voir de Zverkov, et Simonov qui comprendrait tout cela parfaitement, qui me mépriserait, sans rien dire, pour la bassesse de mon amour-propre et pour ma lâcheté, et, surtout, comme tout cela serait pitoyable, pas littéraire, commun. Bien sûr, le mieux aurait été de rester simplement chez moi, mais c'était cela le plus impossible. Quand quelque chose commençait à m'attirer, ça m'attirait tout entier, des pieds jusqu'à la tête. Toute la vie, après, je me serais moqué de moi. La frousse qu'il a eue, la frousse de la réalité, la frousse. Non, j'avais un désir passionné de démontrer à cette racaille que je n'avais rien d'un lâche, comme je le pensais moi-même. Bien plus, au paroxysme le plus brûlant de ma fièvre de lâcheté, je rêvais de tenir le haut du pavé, de vaincre, de les entraîner tous, de les obliger à m'aimer. Eh bien, ne fût-ce que pour la noblesse de mes pensées et mon humour indubitable. Il délaisse Zverkov, il se retrouve à l'écart, il la ferme, la honte le prend, et moi, j'écrase Zverkov. Après, sans doute, je fais la paix avec lui, je bois au tutoiement. Et le plus rageant, le plus vexant pour moi, c'était que, dès ce moment-là, je savais à coup sûr, sans faute, qu'au fond, je n'avais besoin de rien de tout cela, qu'au fond, je ne voulais pas du tout les écraser, les soumettre, les attirer, et que je n'aurais pas donné un sou, moi le premier, pour l'atteindre vraiment ce résultat. Oh, comme je priais Dieu que cette journée passe vite. Dans une angoisse indescriptible, j'allais à la fenêtre, j'ouvrais la lucarne, et je fixais l'obscurité glauque de cette neige mouillée qui tombait à gros flocons. Ma sale petite horloge murale finit par susurrer 5 heures. Je saisis mon chapeau et en m'efforçant de ne pas regarder Apollon qui attendait son salaire depuis l'aube et qui était trop fier pour en parler le premier, je me faufilai devant lui dans l'entrée et puis en équipage, que j'arrêtai tout exprès et qui me coûta mes 50 derniers copecs, je me présentai comme un grand seigneur à l'hôtel de Paris.